Bonjour et bienvenue à l'écoute de Choisy Info, le magazine municipal d'information locale de Choisy-le-Roi, numéro 253, mai 2021. Ce service vous est offert par la ville de Choisy-le-Roi. Plage 1, sommaire. Plage 2, entretien avec Tonino Panetta, maire de Choisy-le-Roi. Plage 3, focus. Plage 4 à 6, actualité. Plage 7 à 9, dossier, internet et informatique. Plage 10 et 11, dans votre quartier. Plage 12, vie associative. Plage 13, portrait. Plage 14, mémoire. Plage 15 et 16, culture. Plage 17, hommage. Plage 18, sport. Plage 19 à 21, l'expression des groupes politiques du conseil municipal. Directeur de la publication, Tonino Panetta. Rédacteur en chef, Raïm Talbi. Ont collaboré à ce numéro Sabrina B., Manuel Pires, Daniel Georges, Claire Tesser-Orion, Nadia Sweeney. La reproduction de tout article est interdite sans l'accord de la rédaction. Téléphone 01 48 92 41 81, courriel choisy.info@choisyleroi.fr. Réalisation sonore, association Donne-moi tes yeux, téléphone 01 47 05 40 30, courriel contact@donnemoitesyeux.fr. Panetta, maire de Choisy-le-Roi. Vous avez récemment diffusé une vidéo sur la situation sanitaire. Pourriez-vous nous faire un point à ce sujet? Tonino Panetta. J'ai en effet alerté notre population sur la situation sanitaire devenue problématique et inquiétante dans notre ville. J'invite donc les Choisyennes et les Choisyens à redoubler d'efforts concernant le respect des mesures sanitaires, des gestes barrières et le port du masque. Surtout, je les invite, s'ils ont le moindre doute, à se faire dépister dans nos centres situés au sous-sol du Royal pour les tests antigéniques et au CMS rue Ledru-Rollin pour les tests PCR. Concernant ces derniers, il faut prendre un rendez-vous au laboratoire d'analyse médicale près de la gare. Nous renforçons aussi notre centre de vaccination et nous nous battons chaque jour pour obtenir des doses supplémentaires. Pour assurer une sécurité maximale, j'ai pris la décision de faire vacciner les personnels des écoles, ATSEM, agents d'entretien et animateurs, ainsi que les agents municipaux en contact direct avec le public, comme ceux de l'accueil ou du service population, et ce à chaque fois que nous obtenons des doses supplémentaires de l'Agence régionale de santé. Maintiendrez-vous les activités estivales comme cela se faisait chaque année ? Avec le retour des beaux jours, nous sommes questionnés sur les activités qui seront organisées par la ville, que nous avons commencé à préparer. Ces activités estivales se tiendront en tenant compte du contexte sanitaire, qui, je l'espère, sera favorable, après avis du préfet, comme chaque événement organisé durant la crise Covid. Comme vous le constatez, nos parcs et squares fleurissent, et je profite de cette interview pour répondre aux nombreuses familles qui s'interrogent sur la disparition de l'aire de jeu pour enfants située dans le parc de la mairie face à l'hôtel de ville. Cette structure a été démantelée, pour des raisons de sécurité, car trop ancienne, elle était devenue dangereuse. Je tiens à rassurer les familles, elle sera bien remplacée dès que nous aurons réglé un différend technique avec les Bâtiments de France, qui veulent nous imposer un sol fait de copeaux de bois que je refuse d'installer, car, même compactés, ils se dispersent et peuvent être ingérés par les enfants. Nous voulons un sol souple, qui amortit mieux les chocs en cas de chute et qui a fait ses preuves depuis de nombreuses années. Et c'est d'ailleurs ce même sol souple qui équipe la majorité des aires de jeu de notre ville, car il assure une meilleure sécurité de nos enfants. Dans l'attente de vous retrouver, prenez soin de vous et dans l'intérêt de vos proches, ne prenez aucun risque. Accompagnement et solidarité. Depuis le début de la crise sanitaire, les équipes des centres socioculturels Langevin et Mouloudji s'adaptent afin de continuer à proposer leurs services, parmi lesquels l'accès aux droits et le soutien à la scolarité. Langevin, dans le quartier des Navigateurs, et à Mouloudji, au Gondole Nord, les habitants viennent pour faire une activité, trouver une solution à un problème ou tout simplement se rencontrer et participer à la vie du quartier. Mais comment maintenir un lien social en temps de restrictions sanitaires? En mars 2020, après 2 semaines de fermeture complète, les équipes des centres sociaux se sont mobilisées. Puisque les usagers ne pouvaient plus venir à elles, alors ce sont elles qui prendraient contact pour apporter leur aide dans une vie quotidienne devenue difficile, mais aussi tout simplement pour prendre des nouvelles des uns et des autres. L'équipe s'est également portée volontaire pour assurer l'accueil du centre de dépistage Covid mis en place par la mairie. D'autres actions ont rapidement été mises en place et perdurent encore aujourd'hui. Les centres sociaux ont ainsi été à l'initiative avec le réseau des médiathèques, des livrets de confinement à destination des familles et proposant des activités, des recettes de cuisine et d'autres contenus récréatifs. Le document très ludique, enrichi par les contributions d'autres services municipaux, a favorisé le lien avec les habitants éloignés du numérique. La crise sanitaire n'a pas encore permis de reprendre des activités de loisirs, mais les centres sociaux, en lien avec le service jeunesse, ont proposé des animations à distance. Quelques activités se déroulent aussi hors les murs, comme un rallye, durant lesquels les habitants ont pu redécouvrir leur quartier. Les centres sociaux faisant partie des établissements qui peuvent continuer à accueillir du public dans le respect des règles sanitaires, les permanences d'accès aux droits sont restées ouvertes. Ce service s'est vu renforcé par la présence d'une conseillère en économie sociale et familiale. L'équipe a également mis en place une permanence de vie quotidienne. On aide un tel à remplir un chèque, un autre à lire un document. De plus, lorsque la météo le permet, les équipes reçoivent en extérieur, devant le centre social ou au parc Brossolette, grâce à un bar mobile. La crise a également eu un impact profond sur le projet des centres sociaux. On a structuré l'offre en direction des enfants et de la scolarité, explique Ayoussouf Soukouna, coordinateur des deux centres sociaux. Désormais, les portes des deux équipements sont ouvertes, tous les jours, de 16h à 17h45, pour accueillir les jeunes après l'école. Trois niveaux sont proposés selon les besoins, l'aide aux devoirs, l'accompagnement scolaire et le soutien scolaire. Pour cela, les centres sociaux font appel à des bénévoles. On veut d'abord accueillir et mettre en place un réseau pour trouver une solution à chaque situation, poursuit Ayoussouf Soukouna. Les centres sociaux misent sur l'accompagnement et la solidarité des choisis. Espace Langevin, 31 33 rue Albert 1er, téléphone 01 48 52 63 49, sur Facebook Espace Langevin. Espace Mouloudji, 1 place Pierre Brossolette, téléphone 01 48 53 41 55. Parole de Anan Margoum, maman, usagère du centre social Mouloudji. Je fréquente le centre social depuis des années, c'est un endroit essentiel pour nous, les enfants et aussi les mamans. On s'y retrouve pour des activités, mais aussi pour discuter. Ce sont des moments qui nous font oublier tous nos soucis quotidiens. Durant les dernières petites vacances, nous avons participé à des activités en extérieur qui nous ont permis de rencontrer d'autres familles que l'on ne connaissait pas. Ma fille de 7 ans va au centre Mouloudji tous les soirs pour l'aide aux devoirs. Ça l'a beaucoup aidée, notamment pour avoir confiance en elle. Deux questions à Marina Brûlant, adjointe au maire en charge des centres sociaux. Quelle est votre ambition pour les centres sociaux Langevin et Mouloudji? Marina Brûlant. Le centre Mouloudji est depuis peu reconnu comme centre social. Notre ville en possède désormais deux. Nous travaillons au renforcement du centre Langevin qui sera intégré dans le futur équipement socio-culturel du quartier des Navigateurs pour un meilleur accueil des choisis. Ce sont des structures de proximité à vocation globale, familiale et accessible à tous les âges. Ils sont ouverts à l'ensemble de la population à qui ils offrent accueil, activités et services. Formidable point de rencontre et d'échange entre générations, ils favorisent le développement des liens familiaux, la vie sociale, la créativité des jeunes et l'expérience des anciens. Et la vie associative, ce sont des lieux où se créent les initiatives et les projets, les centres sociaux accompagnant et mettant à disposition des moyens logistiques et professionnels. Aussi, ils doivent être présents en dehors des murs de la structure, que ce soit dans la rue, dans les parcs et dans tous les lieux de vie. Pourquoi avoir maintenu ouverts ces centres malgré la crise sanitaire? La pandémie de Covid-19 que nous traversons amène des difficultés supplémentaires. L'importance de maintenir les centres ouverts dans le respect des gestes sanitaires est de conserver le lien avec les habitants les plus fragiles, les jeunes, les étudiants, les personnes âgées et les personnes souffrant des handicaps. Il s'agit là aussi d'apporter un soutien logistique aux enfants et de les aider en ces temps difficiles, d'accompagner les familles, de renseigner et d'être à l'écoute, d'offrir une continuité de service à tous les choisis. Maintenir les centres sociaux ouverts, c'est conserver le sens même et la vocation d'un centre social que sont la dignité humaine, la solidarité et la démocratie. Quelques repères. Deux centres, Paul Langevin, 1872-1946, ami d'Albert Einstein, physicien, membre de l'Académie des sciences, professeur au Collège de France, marié à Choisy-le-Roi le 22 septembre 1898. Marcel Mouloudji, 1922-1994, chanteur populaire et engagé, antimilitariste pendant la guerre d'Indochine, mère femme de ménage bretonne et père maçon kabyle. 14. C'est le nombre d'agents qui composent les équipes des deux centres. 80 élèves bénéficient d'un soutien scolaire, une dizaine de bénévoles pour les actions liées à la scolarité, un réseau qui a vocation à se renforcer. Toute personne qui souhaite participer à ce bénévolat, elle a bien envie. Arrivée des éco-poulaillers. Des éco-poulaillers ont été installés en avril dernier dans des écoles et dans un jardin collectif. C'est une des actions du projet global visant à remettre la nature au cœur de la ville. Des poules dans les différents établissements scolaires de la commune. Vous ne rêvez pas, la campagne débarque à Choisy. Trois éco-poulaillers sont désormais déployés dans les écoles du parc Blanqui et Joliot-Curie, tandis qu'un quatrième a vu le jour dans le jardin partagé du Temps des Cerises, situé au Gondole Nord. À raison de 5 gallinacés par poulailler, ces installations ont pour objectif de rendre sa place à la nature en ville. Il s'agit de se réapproprier le vivant de manière ludique et pédagogique. L'initiative s'effectue en partenariat avec les enseignants qui aborderont avec les élèves les spécificités de l'animal. Les enfants participeront à la récolte des œufs. La coopérative de l'école se chargera de les vendre au bénéfice de ses projets et actions. C'est un projet complet qui implique les enfants, les enseignants et les parents et grâce auquel les animaux entreront dans les discussions quotidiennes, précise un acteur de l'initiative. Les élèves aborderont aussi la problématique de la réduction des déchets et du gaspillage alimentaire. Une partie des déchets de la restauration scolaire, tels que les épluchures, les pâtes ou le riz, sera triée et distribuée aux animaux, le tout dans des proportions définies au préalable. Afin d'assurer la propreté des lieux, le bien-être et la bonne santé des volailles, l'association Éco-Cocotte, partenaire du projet, effectuera deux fois par mois le nettoyage de ces poulaillers appréciés des choisiens. Je me réjouis de voir que cette action suscite la curiosité des grands et des petits. Tout cela témoigne de notre volonté municipale de faire de nos écoles et de nos centres de loisirs des espaces d'éducation à l'écologie, souligne Ali Ed El Wali, premier adjoint au maire en charge de l'urbanisme et de la nature en ville. Plus d'infos sur choisileroi.fr. Parole de Sophie Tricoche, directrice de l'école maternelle du centre. Cette initiative d'éco-poulailler s'inscrit parfaitement dans le projet d'éducation au développement durable que nous avons mis en place. Nous avons la chance d'avoir un jardin au sein de l'école où nous invitons les élèves à découvrir les senteurs, les couleurs, dans l'idée de les reconnecter à la nature. Dans ce cadre, nous abordons plusieurs thématiques telles que la réduction des déchets, le cycle de vie des poules, mais aussi le savoir-être et la responsabilité vis-à-vis du vivant. Cette expérience favorisera l'apprentissage des enfants et participera notamment à développer leur langage. Mobilité douce, le passeur de rive est de retour. Du 22 mai au 25 septembre, le passeur de rive effectue des traversées douces de la Seine, entre le quai Fernand Dupuis, embarcadère devant la médiathèque Aragon, et le quai des Gondoles, situé de l'autre côté en face de l'entrée sud du parc interdépartemental. Vélos, poussettes et animaux acceptés et gestes barrières scrupuleusement respectés. Ce service, gratuit, est assuré par l'association Au fil de l'eau. La crise sanitaire et ses restrictions de déplacement nous questionnent inévitablement sur notre rapport aux mobilités. Cette navette fluviale offre un véritable moment de plaisir en invitant chaque choisienne et choisien à traverser la Seine à son bord, précise Christian Boll, conseiller municipal délégué aux mobilités et déplacements. Fruit d'une étroite collaboration entre l'association Au fil de l'eau et la ville, ce service participe au désenclavement de nos quartiers sud tout en promouvant l'insertion professionnelle et la protection du milieu naturel que sont les berges de notre fleuve. Nous entendons dès lors, et tout au long du mandat municipal, enrichir enfin ce magnifique partenariat. Tous les mercredis, samedis et dimanches, de 14h à 19h, téléphone 01 48 52 22 22, site internet au fil de l'eau.eu. La Seine, c'est notre patrimoine. Samedi 12 juin, des animateurs de l'association Au fil de l'eau et des artistes de la Société régionale des beaux-arts feront connaître la Seine à des jeunes choisiens. La matinée, à bord d'un bateau, sera consacrée à la découverte du fleuve et de ses rives. Dans l'après-midi, un atelier de restitution en peinture et en dessin de la balade fluviale sera organisé. Une exposition de l'ensemble des œuvres est prévue à la fin du mois d'août. Par ailleurs, de mai à septembre, des œuvres sur le thème de la Seine, réalisées par les artistes de la Société des Beaux-Arts, seront exposées au 58 Galerie Rouget de Lille. Renseignements et inscriptions, courriel scbrac@sfr.fr. Bougeons pour le Bleuet de France. Jusqu'au 23 mai, l'Union nationale des combattants du Val-de-Marne propose une course virtuelle, solidaire et citoyenne, ouverte à tous. L'objectif est de courir, marcher, rouler et ramer sur un parcours librement choisi, seul ou en petit groupe de 6 personnes maximum. Chacun peut s'inscrire de façon individuelle sur l'application gratuite Just Move. Le bénéficiaire des fonds récoltés à l'occasion de cette manifestation solidaire sera le Bleuet de France, une œuvre caritative qui soutient au plus près de leurs besoins les soldats blessés, les victimes d'actes de terrorisme, les veuves et les orphelins. Rendez-vous sur unc94-boucle.jmvirtualraces.com, courriel unc94.boucle@gmail.com, inscription 5 euros ou un don. Qu'attendez-vous des jumelages ? Culture, sport, citoyenneté, solidarité, les échanges internationaux nous font grandir. La ville mène une étude pour évaluer et renforcer les liens avec les villes jumelées et souhaite recueillir votre avis. Vous pouvez répondre à un questionnaire en ligne sur choisileroi.fr avant le 22 mai et participer à une rencontre en visioconférence le mardi 18 mai de 18h à 19h30, inscription préalable avant le 10 mai, à l'adresse courriel suivante rp@choisileroi.fr. Inscrivez-vous sur les listes électorales avant le 14 mai. Les élections départementales et régionales sont fixées aux 20 et 27 juin prochains. Afin de participer à ces scrutins visant à renouveler les conseils départementaux et régionaux, n'attendez pas la dernière minute pour vous inscrire sur les listes électorales. Dernier délai le vendredi 14 mai 2021. Plus d'infos sur choisileroi.fr. Entretien avec Afida Fadli, conseillère municipale en charge de la santé. Le centre de vaccination de Choisy-le-Roi est opérationnel depuis la mi-mars. Le point sur son fonctionnement avec l'élu référente. Le centre de vaccination Choisy 1 a ouvert le 10 mars dernier. Quel bilan en tirez-vous après un mois et demi de fonctionnement ? Afida Fadli. Je suis très satisfaite du rôle de notre centre de vaccination dans la lutte contre la COVID-19. À ce jour, 1211 personnes ont reçu la première dose de vaccin et 455 ont reçu la deuxième dose. L'objectif du centre est d'augmenter le nombre de personnes vaccinées dans notre commune. Une équipe mobile a aussi été créée afin de vacciner des personnes ne pouvant plus se déplacer. Comment allez-vous faire lorsque la vaccination sera élargie à tous les publics ? Le centre a ouvert de nouveaux créneaux, notamment les matins, en semaine et les samedis. Nous élargirons les plages horaires pour répondre au mieux aux nouvelles personnes éligibles en fonction des doses délivrées par l'ARS. La CPAM a donné l'autorisation de vacciner aux étudiants infirmiers et en médecine, aux retraités, afin de prêter main forte dans les centres de vaccination. Le vaccin peut également être réalisé chez son médecin traitant ou chez le pharmacien. Avec toutes les forces mobilisées, nous pourrons élargir sensiblement l'accueil de nouveaux publics. Le virus continue-t-il de circuler à Choisy ? Comment limiter sa propagation ? Le virus circule activement dans notre ville et le taux de contamination est plus élevé que la moyenne départementale. Pour limiter sa propagation, il faut continuer à respecter scrupuleusement les gestes barrières et porter le masque. S'il y a le moindre symptôme, il faut se présenter dans un de nos deux centres de dépistage pour se faire tester sans rendez-vous ni ordonnance. L'un se situe au sous-sol de la salle du Royal, au 13 avenue Anatole France, antigénique. L'autre se trouve 9 rue Ledru-Rollin, PCR. Vous êtes infirmière dans un centre hospitalier parisien. Comment vivez-vous cette pandémie ? J'exerce depuis plus de 25 ans. J'ai débuté ma carrière avec la pandémie du sida, une époque terrible que je croyais révolue. J'avais dit plus jamais ça. Et finalement, le Covid-19 apparaît. Une situation plus dure à vivre en raison des incertitudes et le sentiment d'impuissance. Mes collègues et moi avons composé avec la peur de tomber malade ou de contaminer un proche. Nous avons dû nous adapter rapidement. Je traverse à nouveau une troisième vague, mais mieux armée que l'année dernière. Malheureusement, je déplore la fermeture de lits, ce qui retarde la prise en charge rapide de certaines pathologies. Respectons les gestes barrières et tenons bon. Ensemble, nous allons vaincre et sortir de cette crise sanitaire. Les patients éligibles à la vaccination, selon une liste définie par l'État, sont priés de prendre rendez-vous par Internet sur doctolib.fr ou par téléphone au 0801 90 26 11. Plateforme de soutien psychologique des spécialistes à votre écoute. Pour prévenir l'apparition de troubles en lien avec l'épidémie de Covid-19 et le confinement, l'Agence régionale de santé d'Île-de-France met en place des plateformes téléphoniques de soutien psychologique. Pour les familles endeuillées par l'épidémie, 01 48 95 59 40, du lundi au vendredi de 10h à 17h. Pour tous, 01 48 95 59 40 ou 01 42 34 78 78, du lundi au vendredi de 9h30 à 18h. Pour les personnes souffrant de troubles psychiques et leur entourage, 01 48 00 48 00, 7 jours sur 7, de 11h à 19h. Pour les personnels et les familles des résidents des EHPAD, 01 44 49 24 79, 7 jours sur 7, de 10h à 18h. Pour les jeunes de 7 à 25 ans, dont un membre de la famille souffre d'un trouble psychiatrique, 01 84 79 74 60, du lundi au vendredi, de 11h à 19h. Et informatique. Choisy répond aux défis du numérique. Les fractures numériques touchent 17% de la population française et 38% des usagers manquent de compétences en la matière, selon des chiffres INSEE. Dans un contexte de crise sanitaire où les démarches en ligne sont fortement recommandées, l'accès au numérique représente un défi. Pour répondre à ce challenge, Choisy-le-Roi a décidé de déployer une politique ambitieuse en lien avec les partenaires institutionnels, scolaires, associatifs, mais aussi avec les habitants et les entreprises du territoire. La ville a déjà été récompensée par 5 arrobas, la plus haute distinction du label des collectivités ville, village et territoire Internet. Inégalité, le numérique, un défi social. pour que le numérique soit une chance pour tous et non un facteur d'aggravation des inégalités, la ville de Choisy a décidé de mener une politique ambitieuse en la matière. La fracture numérique désigne la disparité d'accès aux outils informatiques et notamment à Internet. C'est une inégalité des temps modernes qui vient s'ajouter à d'autres fractures, sociales et géographiques, qui, elles, traversent la société depuis longtemps. Et la généralisation du smartphone n'est que l'arbre qui cache la forêt. La population la plus pauvre et la moins formée, y compris chez les jeunes, se contente souvent d'une utilisation intensive des réseaux sociaux sans avoir accès au réel potentiel des outils numériques. Dans ce contexte, Choisy-le-Roi, dont 30% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, a un véritable challenge à relever. Si l'on considère la jeunesse de cette population, ce défi pourrait être aussi une opportunité en termes d'employabilité et plus largement de développement économique. L'inégalité numérique s'est révélée d'autant plus cruellement depuis le début de la crise sanitaire, alors que les démarches en ligne sont fortement recommandées, voire obligatoires. De plus, l'État a accéléré le mouvement. Toutes les démarches administratives du quotidien seront dématérialisées d'ici à 2022. Obtenir une carte grise, par exemple, n'est aujourd'hui possible qu'en ligne. Créer un compte, scanner, vérifier ses mails, ce qui apparaît simple pour certains, implique en réalité des compétences et un matériel souvent coûteux. À Choisy, on peut bien sûr contacter les services municipaux par mail, mais il est toujours possible d'envoyer un courrier ou de se déplacer physiquement. Pour que l'arrivée du tout numérique ne laisse personne de côté, la ville propose les services d'un médiateur numérique qui aide les Choisyens dans leurs démarches en ligne. La création d'un tiers-lieu est un autre projet de la mandature qui participera à la réduction de la fracture numérique. Ainsi, une ressourcerie spécialisée dans le matériel informatique permettra de récupérer des ordinateurs et autres pièces pour les réparer et les remettre en vente à prix solidaire. Ce lieu proposera également une médiation numérique ainsi que des formations. Ce projet, éligible à une subvention de l'État, répond à différents enjeux comme l'économie sociale et solidaire, la gestion des déchets, la vie associative, la politique de la ville, la jeunesse et l'insertion professionnelle. C'est dire si, dans ce défi du numérique, réside en réalité un défi de société. Toutes les infos sur choisileroi.fr. Parole de Grégory Cribeillet, président de Choisy e-sport. Je travaille dans un cabinet d'audit, de conseil et d'expertise comptable qui intervient dans le secteur de l'e-sport. Avec la responsable du département consulting social ainsi qu'un étudiant en école spécialisée d'e-sport, nous œuvrons depuis juillet dernier à l'ouverture d'un club municipal amateur pour la rentrée 2021. La mairie nous accompagne dans ce projet, notamment dans la recherche d'un local. Nous voulons transmettre les bonnes pratiques et permettre aux jeunes Choisyens de se réunir dans un lieu, créer du lien tout en étant guidés par des coachs. Trois questions à Yacine Chalbi, conseiller municipal en charge de la ville intelligente et innovante, la Smart City. La crise sanitaire a-t-elle accentué la fracture numérique déjà existante? Et comment la ville essaie d'y remédier? Yacine Chalbi. Oui, tout à fait, je l'ai particulièrement remarqué chez deux publics, les agents de la ville, qui du jour au lendemain ont dû s'adapter au télétravail, et les enfants, qui n'avaient parfois pas d'ordinateur à domicile, pour recevoir les contenus scolaires envoyés par les professeurs. Pour les premiers, nous avons mis en place une feuille de route qui prévoit des formations, la fourniture de matériel. Pour les enfants, la ville a bénéficié de plusieurs subventions de l'État qui vont permettre un meilleur équipement. Vous prévoyez l'installation prochaine d'une école du numérique. C'est un projet phare du mandat. L'idée est de pouvoir proposer aux jeunes Choisyens, qui représentent 29% de la population, des formations courtes ou longues qui déboucheront sur un emploi. Nous voulons aller plus loin en créant un écosystème qui attire les entreprises du numérique. 50% de ces entreprises sont implantées en Île-de-France, qui favorise les jeunes entrepreneurs Choisyens avec la création d'un incubateur, d'un espace de coworking, d'un club municipal de e-sport. Ce maillage peut être à l'origine d'une émulation des esprits et de l'innovation qui ne concerne pas uniquement le numérique d'ailleurs. Qu'en est-il du déploiement de la fibre à Choisy? La ville est majoritairement fibrée, mais il reste encore des zones non équipées, notamment dans les quartiers excentrés. On nous signale également des problèmes de déconnexion ou d'armoire forcée. Notre but est que tous les habitants puissent bénéficier de cette technologie et nous faisons notre maximum auprès d'SFR, l'opérateur qui a récupéré le marché. Pour ce qui est des bâtiments publics, comme les administrations, mais aussi les médiathèques ou les centres sociaux, la ville a investi dans son propre réseau de fibres. Avec Damien Bedu, médiateur numérique. Pourquoi la présence d'un médiateur numérique est-elle si importante au sein de la mairie? Damien Bedu. La création d'un EPN, un espace public numérique, est un projet de longue date. Je suis arrivé à la mairie en mai 2020 en plein confinement. J'ai commencé à recevoir du public en juin à la réouverture des établissements publics. Cette première approche nous a permis de comprendre quels étaient les besoins réels d'accompagnement d'une certaine partie de la population choisie dans les démarches administratives qu'elle relève de la ville ou d'autres administrations comme la préfecture. Quels sont les profils des personnes que vous recevez et à quel type de demande répondez-vous? Ce sont des choisiennes et des choisiens qui sont complètement coupés du numérique et qui appréhendent mal les démarches administratives, voire sont phobiques, et généralement une population en grande difficulté. Il peut y avoir une barrière de la langue ou de la lecture qui les empêche d'accomplir ces démarches. Les tranches d'âge les plus représentées sont les 36-45 ans et les 56-65 ans. Leurs demandes concernent l'enfance, portail famille de la ville, la CAF, les impôts, Pôle emploi et toutes les demandes de l'administration électronique. Quel bilan faites-vous de votre mission? Depuis l'ouverture du service, nous avons traité 703 démarches pour 330 choisiens. 9 démarches sur 10 aboutissent. J'accompagne les usagers, souvent tout au long des étapes, mais ils sont en demande d'autonomisation et grâce au contexte moins formel que nous leur offrons, ils envisagent les choses différemment. Apprendre l'informatique peut même devenir amusant pour certains d'entre eux. Nous travaillons aussi sur cet axe, notamment au travers du programme L'État Aidant Connect. Comment comptez-vous faire évoluer ce service? Dès que le contexte sanitaire le permettra, nous voudrions mettre en place des formations d'appréhension du numérique. Allumer un ordinateur, se servir d'une souris, créer une boîte mail. Nous travaillons également avec le CCAS, les centres sociaux et le réseau de médiathèques afin de proposer à l'usager un parcours simplifié, ce qui va avec une coordination des différentes permanences d'accès aux droits. L'idée est de proposer un rendez-vous dans la bonne structure. Quel que soit le guichet municipal auquel l'usager s'adresse, nous sommes en phase d'expérimentation. Plus d'infos sur choisileroi.fr. Parole 2, une retraitée de Choisy-le-Roi, usagère de la médiation numérique. Avant, je n'avais aucun matériel informatique et je me suis rendu à la permanence de la médiation numérique pour avoir des renseignements. J'ai acheté une tablette et Damien Bedu m'a aidé à créer une adresse mail. Il m'a aussi montré comment utiliser Google, le site de la ville, et faire des démarches administratives. C'est un grand souffle d'air, particulièrement en ce moment où beaucoup d'administrations sont fermées. Un service comme celui-ci est extrêmement précieux, surtout avec une personne comme Damien, qui est très patient. Je retourne le voir quand je coince sur une démarche ou quand j'ai un doute.
Lieu de ressources du numérique. L'espace public numérique, EPN, au centre social Langevin, et l'espace de formation aux usages de l'Internet et du numérique au centre social Mouloudji, constituent les outils pour lutter contre l'électronisme. Pendant la crise sanitaire, les ateliers privilégient un accompagnement individuel, notamment pour les démarches administratives dématérialisées. Avec une trentaine de postes en libre accès, le réseau des médiathèques est un autre lieu de ressources. Si leur mise à disposition est aujourd'hui limitée en raison de la crise, toutes les médiathèques, Aragon, la Maison pour tous et Ipoustegui, continuent de proposer ce service. Le réseau bénéficie également de bornes de consultation, de tablettes et même d'une imprimante 3D. Des ateliers premiers pas y sont également proposés. Enfin, des associations présentes dans la ville organisent des ateliers, c'est notamment le cas de Quartier Libre, qui propose une initiation aux enfants de 6 à 11 ans, ainsi qu'aux adultes. Apprendre à l'école. Comment acquérir les compétences et les connaissances liées à un outil indispensable dans la vie? À l'école, bien sûr. Encore faut-il que les moyens matériels soient présents. À Choisy, 78 ordinateurs portables et 180 tablettes tactiles sont répartis dans les classes des 8 écoles élémentaires. Une subvention de l'État a aussi permis d'équiper l'ensemble des écoles en vidéoprojecteurs et matériel informatique. À cela s'ajoute une subvention spécifique au titre de la politique de la ville pour un équipement haut de gamme dans les écoles Mandela et Langevin, comme des tableaux interactifs. À l'horizon 2022, 91% des écoles élémentaires seront équipées de tableaux interactifs. Par ailleurs, 13 jeunes ont reçu un ordinateur portable dans le cadre du programme de réussite éducative. Enfin, le dispositif départemental Ordival offre à tous les élèves un ordinateur portable au moment de leur entrée en 6e. La ville sur les réseaux. La présence de Choisy sur Internet n'est plus à démontrer. Sur Facebook, la mairie dispose de son compte officiel auquel s'ajoutent ceux des équipements municipaux, le théâtre cinéma, les locaux musiques, le réseau de médiathèques, l'espace Langevin. La ville est également présente sur Instagram et Twitter. Cette présence sur les réseaux sociaux est aussi l'occasion d'établir une communication directe avec ses administrés ainsi qu'une transparence accrue. Les conseils municipaux sont ainsi retransmis en direct sur les réseaux sociaux. Enfin, la mairie prévoit une refonte de son site internet et une application mobile qui intégrera un outil de signalement, celui d'un objet encombrant par exemple. Voilà comment être toujours
la page. Choisy Nord, quand la cuisine végétale devient un art. Une cuisine délicieuse. tant pour les papilles que pour les yeux, et 100% végétal. Est-ce possible? C'est le défi qu'a relevé la fratrie Essama en créant Eolia Pâtisserie, un traiteur spécialisé dans la pâtisserie raffinée, sans produits d'origine animale et sans gluten. C'est à Choisy, au cœur de l'usine Hollander, qu'Eolia et Aaron, les fondateurs, ont décidé d'installer leur atelier. Dans ce laboratoire gustatif, on teste, on goûte, on essaie de reproduire des recettes traditionnelles de qualité en substituant œufs, lait ou encore gluten par d'autres produits. De plus en plus de gens souffrent d'intolérance alimentaire, relève Eolia, 24 ans, à l'initiative du projet. Je suis végétalienne depuis mes 17 ans pour des raisons de santé. Par ailleurs, beaucoup de personnes refusent de consommer des protéines animales par éthique. Il s'agissait pour moi de leur proposer une gamme de produits adaptés, variés et de qualité. Dans son atelier, la jeune femme, passionnée depuis l'enfance par la cuisine et titulaire d'un CAP pâtisserie, joue avec les goûts, les saveurs et les couleurs accompagnée de son frère cadet. Pour innover, le duo s'inspire de ses origines martiniquaises, camerounaises et hongroises pour composer avec les épices et les spécificités propres à chaque région. L'entreprise s'inscrit dans une démarche éco-responsable en sélectionnant des produits bio ou issus de l'agriculture raisonnée et en respectant la saisonnalité. Eolia Pâtisserie intervient pour tout type d'événements, privés ou professionnels, propose la livraison de gâteaux d'anniversaire ou de box pâtisserie et pourra également vous surprendre avec une gamme salée pleine de saveurs. Plus d'infos sur le site eoliapâtisserie.com. Interquartier, la ville en renouveau. La ville entreprend de nombreux aménagements sur l'espace public et dans les bâtiments communaux. École élémentaire Victor Hugo, en prévision d'une ouverture de classe, poursuit des travaux d'installation d'une troisième salle modulaire dans la cour. École élémentaire du parc, pour limiter les déperditions énergétiques l'hiver et améliorer le confort d'usage lors des périodes de forte chaleur, poursuite de la rénovation complète de la façade donnant rue David, mise en place d'une isolation thermique. Marché du centre, poursuite de la réfection partielle de la toiture endommagée par un incendie, initialement prévu en avril, travaux reportés en mai en raison de la crise sanitaire. Centre de loisirs de la Prairie, fin de la construction d'un nouveau centre de loisirs élémentaires et du restaurant périscolaire, destiné à l'ensemble du site, travaux de finition et préparation de la mise en service des nouveaux bâtiments. Stade Jean-Bouin, poursuite des travaux de construction des nouveaux vestiaires au stade de rugby, livraison attendue pour l'été 2021. Gymnase Alice Milia, opération de réception du nouveau gymnase. École élémentaire Paul Langevin, remplacement de stores extérieurs défectués dans différentes salles de classe, travaux initialement prévus pendant les vacances de printemps, reportés en mai en raison de la crise sanitaire. Centre social Paul Langevin, sécurisation des rampes situées de part et d'autre de l'entrée principale. Gymnase René Rousseau, réfection d'une partie de la couverture et remplacement de l'escalier de secours extérieur, travaux initialement prévus en avril, reportés en mai en raison de la crise sanitaire. Centre social Mouloudji, réfection générale des espaces intérieurs comprenant peinture, faux plafond et éclairage. École élémentaire Marcel Cachin, remise en état général des stores extérieurs. Enfin, l'école maternelle du parc, ravalement du pignon est du côté du collège Henri Matisse. Choisy Sud, priorité à l'emploi. Le futur écoquartier au sud de Choisy, labellisé quartier productif. Au-delà de l'appellation encourageante, cette labellisation gouvernementale distingue des quartiers prioritaires de 11 communes françaises que l'État soutiendra dans leur stratégie de développement économique. Le renouveau de ce secteur s'inscrit déjà dans le cadre du nouveau programme de rénovation urbaine pour ce qui relève de l'habitat et de l'aménagement. Ce récent label aidera à faire vivre l'emploi au plus près des quartiers d'habitation et à répondre aux besoins des habitants comme le souhaite la municipalité. La ville bénéficiera d'un accompagnement stratégique et financier pour faire émerger et accélérer des projets centrés sur quatre priorités, le soutien à l'entrepreneuriat, le développement du commerce et de l'artisanat, l'implantation d'activités productives, la transition numérique. Une attention particulière sera portée aux nouvelles économies de l'environnement à travers les filières de réemploi des matériaux ou de l'économie circulaire. Plus d'infos sur le site banquedesterritoires.fr. Gondole Nord, Cyril Cognier, un courtier en travaux. Vous avez des travaux à réaliser, mais vous ne savez pas exactement comment démarcher les entreprises. Les appels, les devis vous prennent la tête ou vous avez peur de ne pas trouver les prestations attendues, qu'à cela ne tienne. Pour vous faciliter la tâche, vous avez la possibilité de faire appel à Cyril Cognier, courtier en travaux établi à Choisy depuis janvier 2021. Cet ancien ingénieur a franchi le pas en devenant franchisé de la Maison des Travaux, qui compte plus de 140 enseignes dans toute la France et vous propose un accompagnement dans vos projets d'aménagement, de rénovation ou d'agrandissement. Cyril Cognier travaille avec une vingtaine d'artisans référencés et étoffe sa gamme de partenaires. Je mets entre 3 et 6 mois pour recruter de nouveaux artisans, car je réalise un véritable travail d'audit. Je m'assure de la santé financière des sociétés, mais aussi de la qualité des prestations réalisées en sondant leurs anciens clients. J'assure les visites de chantier et vérifie la conformité des assurances. Par ailleurs, je propose un véritable accompagnement en validant la faisabilité du projet, tant d'un point de vue technique que financier, et en ouvrant le champ des possibilités grâce à des outils de projection en 3D, explique le professionnel. Outre le gain de temps pour les clients, l'entrepreneur garantit des travaux réalisés dans les règles de l'art, en toute sécurité et dans le respect des délais. Dernier point non négligeable, la prestation est entièrement gratuite pour les clients. Téléphone 06 09 59 44 71, courriel cyril.cognier@lamaisondestravaux.com, site internet vitry.lamaisondestravaux.com. Jardin partagé. Savez-vous planter chez nous? Les 4 jardins partagés conventionnés avec la ville et 2 autres gérés de façon autonome donnent à chacun la possibilité de mieux connaître le cycle naturel des plantes, de retrouver un contact avec la terre ou encore de partager des instants de convivialité. Qui n'a pas rêvé d'avoir son potager et de cultiver ses propres tomates pour retrouver des légumes qui ont du goût? Depuis plusieurs années, la ville a choisi de favoriser l'essor de l'agriculture urbaine, poursuivant ainsi plusieurs objectifs. Tout d'abord, la réappropriation de l'espace public, mais aussi la végétalisation de la ville et enfin le développement du lien social. L'idée est aussi de favoriser la biodiversité et de transmettre aux jeunes générations le lien avec la nature en leur apprenant à respecter ses rythmes. Aujourd'hui, Choisy-le-Roi compte 4 jardins partagés conventionnés avec la ville. Tous revendiquent une même philosophie, en privilégiant notamment une gestion écologique, mais chacun possède ses propres spécificités grâce aux animations mises en place pour créer du lien. Ces lieux ouverts sur le quartier favorisent les échanges, la créativité, la solidarité et les initiatives citoyennes. Pour que chacun soit en mesure de se réapproprier les espaces verts, l'alimentation et le vivre ensemble. Outre ceux conventionnés avec la ville, 2 autres jardins participatifs en permaculture fonctionnant d'une façon autonome existent dans le centre-ville. Situés sur des terrains mis à disposition par le bailleur Val-Office, l'un square Franchot est en activité depuis de nombreuses années et l'autre derrière la maternelle Eugénie Coton, lancement prévu le 1er mai, ils sont gérés par l'ACAC, l'Association des citoyens, commerçants et artisans choisiens. Témoignage. Xavier Richard de La Prairie. Notre jardin partagé est situé rue des Pâquerettes, dans le quartier de La Prairie, une partie de la ville assez excentrée où il manque d'endroits pour se retrouver. Car au-delà du jardinage, cet espace a vocation à être un lieu de rencontre entre habitants. Nous avons une 50aine de bacs, ce qui nous permet pour les plantations de faire un certain nombre d'essais. Tout ne prend pas, mais il faut tenter. Nous avons créé un rucher, grâce notamment à des parrains, qui versent une contribution de 10 euros. Nous en avions 16 l'an passé et désormais 60. Cela va nous permettre d'acheter 4 nouvelles ruches. L'idée est de faire connaître les abeilles, de rappeler leur rôle bénéfique pour la biodiversité. Nous aimerions investir dans une ruche avec une paroi en plexiglas. Cela permettrait de regarder les abeilles sans les déranger. L'un de nos autres projets consiste à créer, mais nous devons auparavant le défricher, un coin de détente au fond du jardin. Nous avons par ailleurs hâte de faire revenir les écoles dans notre espace pour montrer aux enfants comment on travaille la terre. Soulignons aussi que les 4 jardins partagés conventionnés avec la ville travaillent ensemble et s'entraident. Toute une dynamique s'est créée. Contact collectif du quartier La Prairie @gmail.com. Mélanie Cézette du Jardin Colette. Le jardin existe depuis plus de 3 ans. Notre association l'a repris début 2020 et puis la pandémie est arrivée. Nous avons donc à peine eu le temps de démarrer nos activités. Mais nous nous tenons désormais prêts. Nous sommes des passionnés de jardinage avec une fibre sociale, c'est-à-dire que cet espace doit nous permettre de créer du lien social et du partage. Nous voulons également travailler au rapprochement des générations afin de faire découvrir la nature aux plus jeunes. Notre philosophie est la suivante, nous plantons et récoltons ensemble, en fonction de ce qui pousse. Nous n'utilisons aucun pesticide et privilégions les méthodes douces pour éloigner les insectes indésirables. Dès que cela sera possible, nous prévoyons des animations dans notre bel espace. Rien n'est encore décidé pour le moment, et nous nous concertons avec les autres jardins partagés de la ville pour organiser des activités en commun. Nous avons cependant déjà décidé de créer un hôtel à insectes et avons commandé un Keyhole Garden, dit aussi jardin en trou de serrure. Il s'agit d'un jardin potager circulaire, surélevé d'environ 60 cm par rapport au sol et de 2 à 3 mètres de diamètre. C'est une sorte de butte de culture qui met en œuvre de manière ingénieuse plusieurs principes de permaculture. Contact quartierbrillantpeloutier@yahoo.com. Alain Kéguis des Hautes-Bornes. Nous voulons que notre jardin, où nous cultivons en partage, soit un lieu de convivialité qui permette à chacun de profiter d'un espace vert. Nous plantons par exemple des brocolis et des aubergines. Les enfants n'en raffolent pas, mais on se dit que ça peut les inciter à goûter. Mais nous voulons aussi développer des animations. Je suis moi-même astronome amateur et j'ai déjà animé des soirées avec des télescopes et un vidéoprojecteur, afin de regarder et de comprendre le ciel. Grâce à l'amphithéâtre, situé juste à côté, nous avons également organisé ce que nous appelons le cinéma au jardin. Nous allons par ailleurs acquérir un conteneur écologique et innovant qui sera équipé de gouttières, relié à un récupérateur d'eau de pluie. Le toit sera quant à lui équipé de panneaux solaires reliés à une batterie pour permettre d'alimenter de petits équipements électriques. Ce conteneur nous servira pour le stockage du matériel et sera dédié à nos animations autour de l'écologie urbaine et de l'économie circulaire. Nous y installerons une pergola végétalisée juste devant l'entrée. Nous avons enfin un très gros projet pour lequel nous avons obtenu des subventions. Nous allons acquérir un planétarium itinérant qui nous permettra de faire des animations dans les écoles ou bien lors de manifestations publiques. Contact choisileroi@gmail.com. Sandra Nourry du Temps des Cerises. Nous avons doublé le nombre de nos adhérents. Il y a même une liste d'attente depuis la création du jardin en février 2018 et nous avons donc dû petit à petit repenser notre organisation avec un redécoupage des parcelles et une harmonisation des superficies. L'événement pour nous, c'est la récente acquisition d'un poulailler qui doit, dans un premier temps, accueillir 5 poules. Cette opération, rendue possible grâce à la volonté municipale, est menée en partenariat avec l'association Éco-Cocotte qui installe l'équipement et vient nourrir les animaux. Nous avons juste à récolter les œufs. Nous en distribuerons et en vendrons une partie, ce qui nous permettra de nous financer pour dépendre le moins possible des subventions. Et bien sûr, un poulailler est un excellent outil pour des animations pédagogiques. Nous travaillons déjà avec une école située à proximité qui possède ici un bac pour planter. Nous apprenons aux enfants le respect des plantes et allons désormais pouvoir leur parler des poules, un animal bien utile. Nous pouvons aussi les sensibiliser aux déchets et à leur recyclage et plus généralement au développement durable. Tout le monde est le bienvenu dans notre jardin pour venir discuter, s'informer et échanger. Contact le temps des cerises 18@gmail.com. Le bonheur, c'est de donner. Directeur d'une grosse entreprise d'informatique, Aurélien Filangy vient de publier un roman jeunesse sur les questions environnementales, un livre drôle et tendre, à son image. Aucun d'entre nous ne reçoit les mêmes cartes à la naissance. Mais ce n'est pas forcément le jeu qui compte le plus, c'est la manière d'abattre les figures. A priori, Aurélien Filangy ne reçoit pas la meilleure des mains, mais il ne manque pas de cœur. Sa famille italienne quitte Frosinone et la région du Latium à la fin des années 50 pour des raisons économiques. Ses parents sont encore des bambini quand ils arrivent à Choisy-le-Roi. C'est là qu'Aurélien Filangy passe son enfance, lui aussi, entre la mamma et les copains, les 5 et les 7 de cœur. Mon père était couvreur au début de sa carrière professionnelle et il s'amuse encore à dire qu'il a survolé toutes les grandes écoles parce qu'il a travaillé sur le toit des prestigieux établissements scolaires parisiens. Jeune homme, Aurélien Filangy est plutôt attiré par la musique. J'ai fait une école de musique quand j'étais collégien, je joue du piano et de la contrebasse, je voulais devenir musicien professionnel, mais je me suis rendu compte que je n'avais pas un assez bon niveau. Il monte à Paris, se réoriente vers une école d'ingénieur en informatique et finit par une école de commerce. Dans son jeu, un autre atout, la dame de cœur. Aurélien et sa compagne travaillent beaucoup, et dès qu'ils ont suffisamment d'économies, ils s'envolent. Nous avons eu la chance de voyager beaucoup et faire 2 tours du monde en 2011 et 2013. C'est en parcourant les continents qu'il prend conscience de l'état de la planète et de la perte de la biodiversité. L'écologie ? Je n'en avais jamais parlé avec mes parents, avoue-t-il. À l'époque, le discours était « va à l'école, étudie, trouve un boulot passionnant et gagne ta vie ». Aurélien, lui, ne s'arrête pas là, il décide d'en faire un roman pour la jeunesse. Il commence à écrire il y a 10 ans, les débuts sont laborieux. Aurélien Filangy ne trouve pas le ton juste. Arrive à la rescousse le valet de cœur Sébastien Peureux, un ami d'enfance. Ils vont écrire, réécrire et réécrire encore jusqu'à ce que le projet retienne l'attention des éditions L'Élan Vert. Les auteurs doivent alors retravailler le texte. Certains chapitres s'adressaient à des enfants de 7 ans, d'autres plutôt à des 9 ans. Donc il a fallu homogénéiser tout ça. Les 2 albums de son héros, Paul Lueur, devaient sortir juste avant la crise sanitaire. Les éditions Stop Tout, finalement, ils ont été publiés en mars 2021. 2 as pour le cœur. Nous nous sommes rendus compte, Sébastien et moi, qu'il était difficile de vivre de sa plume. Soit c'est une passion, soit on vit d'autre chose. Loïc Mehé, le dessinateur de notre roman, illustre quant à lui 25 livres par an. Il est reconnu dans le milieu et gagne correctement sa vie. Qu'importe, les deux amis auront passé du bon temps ensemble. Et voilà le roi de cœur. Mon fils Paul a bientôt 4 ans. Cela l'a amusé de se retrouver dans ce roman. Pour lui, c'est le livre de papa. Aurélien Filangy et Sébastien Peureux vont aussi discuter dans les classes. Nous sommes surpris de constater que les enfants sont 10 fois plus avancés que nous sur l'écologie. Ils trient, ils sont très matures à ce niveau-là. Quand Sébastien et moi leur demandons ce qu'est l'écologie, ils répondent spontanément que la planète est malade. Sorti de la classe, Aurélien revêt son costume de directeur d'une entreprise d'informatique de 500 salariés, tout en continuant à rêver d'un nouvel album de Paul Lueur, d'un roman, ou de se produire avec son groupe de jazz dans des bars. Finalement, la main n'est pas si mauvaise. Plus d'infos, je suis Paul Lueur, mais ça va changer. Premier tome et pas facile de se tenir au courant. Collection Paul Lueur de Sébastien Peureux et Aurélien Filangy. Illustration Loïc Méhé, paru chez L'Élan Vert Édition, 8,50 € à partir de 6 ans. Auguste Franchot, l'historien de Choisy-le-Roi. Choisyen de cœur, Auguste Franchot s'est intéressé à l'histoire locale et a publié en 1926 un livre qu'il a dédié aux habitants et à sa ville d'attache, où il vécut plus de 50 ans. L'histoire d'une ville, comme celle d'un individu, est un portrait ressemblant, ou mieux, une série de portraits, pris à différentes époques. C'est l'histoire de son origine, de son développement, de sa condition matérielle. C'est avant tout l'histoire des habitudes, des mœurs, des intérêts et de la condition du plus grand nombre. C'est ainsi qu'Auguste Franchot présente en 1926 son histoire de Choisy-le-Roi, fruit de longues années de recherche en archives, mais aussi d'observation de la vie locale et d'écoute des témoignages des anciens. Mais qui est Auguste Franchot? Celui dont un square du centre-ville porte aujourd'hui le nom est né le 24 décembre 1846 à Commercy dans la Meuse. Issu d'une famille modeste mais riche de souvenirs, son père, ancien soldat de l'Empire, a participé aux campagnes de 1811 à 1815 et accueille d'anciens camarades d'armée dont les récits attirent l'attention du jeune Auguste et de son frère Gustave. Assidu à l'école, désireux d'apprendre et encouragé par son instituteur de l'école communale de Commercy, Auguste parcourt avec succès le programme scolaire. Il obtient à 18 ans le diplôme de bachelier et rêve de pouvoir à son tour instruire et enseigner à une classe. Le 8 octobre 1866, Auguste Franchot débute comme maître répétiteur au collège de Remiremont avant de prendre un poste au collège de Thionville, puis au lycée impérial de Bar-le-Duc. Il se décide enfin à partir pour Paris, où son frère s'est installé et le presse de le rejoindre. Le 11 avril 1868, il entre à l'institution Comte de l'avenue de Malakoff, où il enseigne aux élèves de 8 à 12 ans. Les journées de travail et les rêves d'avenir sont malheureusement bientôt freinés par la guerre franco-allemande. S'alarmant des événements, Auguste s'implique davantage dans les débats politiques. Il appuie par un article paru dans le Courrier du Barin en mars 1870 le projet d'instituer l'instruction gratuite et obligatoire. Affligé par la perte de son frère décédé à 23 ans d'une grave bronchite contractée pendant la campagne militaire, perturbé par une vie quotidienne d'après-guerre difficile, Auguste se voit contraint de changer d'horizon. En août 1873, il répond à une annonce pour un poste de direction à l'institution Blanchard, à Thiers, mais l'école ferme à la fin de l'année scolaire. Soutenu par la confiance des familles qui l'encouragent à ouvrir une école, il loue une petite maison au numéro 2 avenue de Villeneuve-le-Roi pour établir une institution à son nom. Celle-ci compte 2 ou 3 pensionnaires et une quinzaine d'externes pour lesquels le jeune directeur, il a alors 30 ans, se dépense sans compter. Les succès de ses élèves, l'augmentation du nombre d'inscrits, le conduisent à transférer le pensionnat dans un local plus vaste, au numéro 55 de l'avenue de Paris, à Choisy-le-Roi. Sa renommée grandit, les jeunes gens, ouvriers, employés, lui demandent des leçons particulières. Il donne alors des cours du soir, 2 heures, 5 jours par semaine. Le nombre d'élèves augmentant toujours, l'école devient de nouveau trop petite et déménage au numéro 4 de la rue Saint-Nicolas. Auguste Franchot trouve ses marques à Choisy-le-Roi, l'école prospère. Sa vocation pour l'instruction est satisfaite. En janvier 1877, il se marie avec Blanche Victorine Anger. L'année suivante, le couple accueille un enfant, Gustave. C'est en 1882 qu'Auguste Franchot commence ses recherches historiques pour connaître le passé de la ville. Un travail colossal de lecture de sources et de collecte qui l'amène aux Archives nationales, à la Bibliothèque nationale, aux bibliothèques Sainte-Geneviève et Carnavalet. Son histoire de Choisy-le-Roi, rebaptisée Le Franchot, est une véritable encyclopédie, partant des temps préhistoriques et se poursuivant jusqu'au tout début du XXe siècle, C'est après avoir publié son œuvre qu'Auguste Franchot décède le 27 février 1927 à 81 ans. Sur les traces de l'historien et responsable d'institution, c'est au numéro 4 de la rue Saint-Nicolas, l'actuelle rue Auguste Franchot, que l'école privée fut un temps établie. Plus tard, en 1886, Auguste Franchot prit la direction de l'établissement de M. Piquet au numéro 37 rue de Vitry, rue Émile Zola, une fonction qui sera reprise par son fils Gustave. L'institution Franchot, pensionnat et école pour garçons, perdurera jusque dans les années 70. Elle se trouvait à l'emplacement de l'actuel square. Plus d'infos, ouvrages disponibles en vente en ligne.
L'Europe de la culture, le théâtre contre la fausse information. Dans le cadre du programme européen Erasmus+, le théâtre de Choisy invite des jeunes à réfléchir à la désinformation. En compagnie d'une journaliste et d'un artiste vidéaste, un projet mené de concert avec l'Italie et le Kosovo. Comment imaginer l'Europe quand on est un jeune de 18 à 25 ans? Comment concevoir des passerelles entre les différents pays? Comment créer ensemble? Voici quelques-unes des questions auxquelles EU Check ambitionne de répondre. Ce projet porté par le Théâtre Paul-Éluard et cofinancé par le programme Erasmus+ de l'Union européenne et la politique de la ville vise à faire travailler ensemble des jeunes de différents pays. Dans ce cadre, l'équipe du théâtre a proposé une thématique qui n'a pas de frontières, la désinformation. Si les fake news, les manipulations et les canulars ont toujours existé, la désinformation emprunte aujourd'hui Internet et les réseaux sociaux avec un impact encore plus fort. Cet enjeu d'éducation aux médias s'est révélé d'autant plus urgent avec la crise sanitaire qui a colporté son lot de rumeurs. Alors comment apprendre aux jeunes qui s'informent principalement via ces réseaux à démêler le vrai du faux? À partir du mois de septembre 2021, entre 6 et 8 jeunes choisiens vont participer à des ateliers sur ce thème accompagnés par la journaliste Emma Roulin qui anime régulièrement des ateliers d'éducation aux médias et un artiste vidéaste Irvine Annex qui s'inspire des réseaux sociaux dans son processus de création. À Pristina, au Kosovo, et à Forlì, en Italie, d'autres jeunes suivront le même processus, également guidés par un duo d'artistes dans le théâtre de leur ville, respectivement le Teatri Odea et le Teatro Giovanni Testori. C'est la deuxième fois que le théâtre de Choisy, scène conventionnée d'intérêt national à récréation pour la diversité linguistique, se lance dans une telle aventure. En 2014, deux jeunes Allemands avaient rejoint Choisy pour conclure l'aventure au cours d'une semaine intense sur le thème de l'engagement des jeunes. Tous venaient de milieux très différents et ne partageaient pas de langue commune. La magie du théâtre avait pourtant opéré sans laisser de côté l'exigence créatrice. De la même manière, jeunes Italiens, Kosovars et Français se retrouveront durant toute une semaine à Choisy en novembre 2021 pour mettre en commun leur travail. À Choisy, les Italiens auront réfléchi à la relation entre fiction et falsification et les Kosovars sur l'intervention artistique dans l'espace public. Quant aux jeunes choisiens, ils expérimenteront le travail journalistique sur les clichés et les idées reçues sur l'Europe. Ensemble, ils créeront un spectacle documentaire, restituant ces heures d'atelier avant de le présenter devant le public choisien. Plus d'infos sur le site théâtre-cinéma-choisy.fr. Parole de Emma Roulin, journaliste. Dans les ateliers d'éducation aux médias que j'anime, je me rends compte que les jeunes ne savent pas exactement en quoi consiste le métier de journaliste, ni forcément comment vérifier une information, si elle est fiable. Avec EUCheck, on va vraiment expérimenter le travail journalistique et plus particulièrement le fact-checking. Au-delà du contenu factuel, on a aussi souhaité, avec Irvine Annex, donner une dimension intime à cette expérience, en installant une cabine où les jeunes face à la caméra pourront livrer leurs sentiments sur ce travail. Réseau des médiathèques, des jeux de société en ligne. Silence, on joue est un rendez-vous régulier du réseau des médiathèques de Choisy. L'occasion de découvrir des jeux sur console et tablette, mais aussi de jouer ensemble et de participer à des tournois. Comment conserver ce rendez-vous apprécié des Choisiens malgré la crise sanitaire et l'impossibilité de recevoir du public? Depuis mars dernier, Silence on joue propose une version en ligne qui fait place aux jeux de société. Pour participer, il suffit d'avoir une tablette ou un ordinateur et de s'inscrire auprès de la médiathèque. À partir du site Board Game Arena, les participants peuvent jouer à des adaptations gratuites de jeux de société parmi les plus connus. Lucky Numbers, Q-Birds, Takenoko. Les jeux sont choisis de manière à mettre les joueurs à un même niveau, quel que soit leur âge. Pour pouvoir communiquer entre joueurs ou avec l'animateur de la médiathèque, un salon de discussion vocale est mis à disposition, un partage qui permet de conserver la convivialité de ce rendez-vous. Le prochain Silence en Joue se déroulera le mercredi 5 mai de 15h à 17h. La fête du jeu le samedi 29 mai prochain donnera lieu à une édition spéciale incluant d'autres structures comme les ludothèques ou même d'autres médiathèques du Val-de-Marne afin de pouvoir accueillir le plus grand nombre de joueurs possible.
Plus d'infos, inscription obligatoire par mail à l'adresse médiathèque au pluriel @choisileroi.fr. Jeunesse au Loco Musique, le spectacle continue. Jouer ensemble et être ouvert aux jeunes qui veulent passer, telle est l'ambition des Loco Musique, une structure municipale du SMJ, le service de la jeunesse, dédié aux musiques actuelles, un programme sérieusement remis en question par la crise sanitaire. Mais c'est sans compter l'investissement de Ludovic Le Guillou et de Renaud Bayard, les animateurs du lieu. Des cours en ligne ont été mis en place ainsi que des ateliers en groupe afin de conserver la dimension collective des Loco Musique. Mais ce collectif a également pris d'autres formes, avec la production en cours d'un CD auquel le Conservatoire d'art plastique et l'atelier manga du SMJ ont pris part en créant une partie de la jaquette. L'expérience de la scène faisant partie intégrante de la pédagogie des Loco Musique, les 12 titres devraient être joués devant un public dans le cadre d'Animété. L'équipe a su aussi profiter de ce temps de restriction pour publier des vidéos pédagogiques pour la chaîne YouTube « Média Jeunesse Choisi ». De nouveaux ateliers ont même été créés, consacré au mix audio-numérique et à la vidéo. La structure accueille également la création d'un film de 3 choisis 1. Les nouveautés ne s'arrêtent pas là, puisqu'une sortie musicale a emmené 5 jeunes et leurs instruments de musique en forêt au cours des vacances de printemps, et d'autres sorties sont prévues. Enfin, depuis la rentrée de septembre 2020, les locaux musiques se délocalisent hors les murs dans les collèges de la ville, durant la pause du déjeuner. Les jeunes peuvent venir expérimenter la MAO, la musique assistée par ordinateur. Ce même type d'intervention a également lieu dans les centres sociaux et les centres de loisirs. Plus d'infos, les locaux musiques de rue Valdec-Rousseau à la Maison de la Jeunesse, téléphone 01 48 53 18 56, courriel locomusics@choisileroi.fr. Betty Laborie nous a quittés. Créatrice de l'école municipale de danse, Betty Laborie s'est éteinte le 30 mars 2021 à l'âge de 94 ans à Angers. Deux de ses anciennes élèves témoignent et honorent sa mémoire. En 1960, avec le soutien de la municipalité, Betty Laborie, professeure de danse issue de l'école d'Irène Popard, a créé la première école municipale de gymnastique rythmique harmonique à Choisy-le-Roi. Sa passion, sa ténacité, son exigence du travail ont permis à de nombreux enfants d'accéder à cette école dès l'âge de 3 ans. Découvrir son corps, rechercher l'harmonie et la beauté du geste avec musique et rythme, prendre du plaisir à s'exprimer, à exister à travers le groupe, étaient les bases de la méthode Irène Popard. Au fil des années, Betty a développé sa pédagogie et a permis à toutes celles qui le souhaitaient de découvrir d'autres styles d'expression, la GRS, gymnastique rythmique sportive, le modern jazz, les claquettes ou la danse contemporaine. Chaque année, de nombreuses représentations étaient organisées pour la ville en plein air, dans les gymnases, sur scène, au Conservatoire des Arts, puis au Théâtre Paul-Éluard. Une gestion rigoureuse a toujours permis de mener à bien ces démonstrations et spectacles. Il permettait aux familles de découvrir l'aboutissement du travail réalisé tout au long de l'année par l'ensemble des élèves. Une brochure réalisée en 2018 dans le cadre de l'association Louis Luc pour l'histoire et la mémoire de Choisy-le-Roi présentait cette école et ce beau parcours. Que de beaux souvenirs nous garderons d'elle et de sa passion, la danse. Nous transmettons à Pascal, son fils, et à sa famille nos sincères condoléances. Merci Betty. Signé Daniel Aurelou et Micheline Audin. L'œuvre sera poursuivie. Adjointe au maire en charge de la culture, Sushma Ostermeyer a également tenu à rendre hommage à Betty Laborie. C'est cueilli par l'émotion de cette nouvelle que je me remémore la richesse de l'enseignement de Madame Laborie. Je me joins avec reconnaissance à l'hommage qui lui est rendu. Par bonheur, la digne héritière de sa méthode, Patricia Lejean, va poursuivre son œuvre dans la ville et transmettre avec la même passion le sens de l'harmonie et de la beauté dans l'expression du corps. Quelle chance pour ces petites élèves. Crise sanitaire, l'éducation sportive à l'épreuve. Depuis un an, les professeurs de sport adaptent leur enseignement pour maintenir une offre d'activité et d'éducation à tous les niveaux scolaires. Rencontre. Offrir une continuité d'éducation sportive à l'école tout au long de la crise sanitaire et de l'évolution des restrictions est un véritable casse-tête. Si l'éducation physique et sportive a longtemps été considérée par certains comme moins importante que d'autres matières, la crise sanitaire et ce qu'elle traduit du rapport à la santé nous prouvent qu'au contraire, qu'elle est primordiale. Dès le plus jeune âge, les élèves ont besoin d'apprendre à s'épanouir physiquement, à connaître leur corps et à en prendre soin. C'est tout l'enjeu du maintien de cette éducation qui a demandé à tous les acteurs un jonglage permanent pour s'adapter aux différentes et mouvantes consignes imposées par le gouvernement. Tout le monde s'est mobilisé avec ses propres moyens. Témoignage. Michael Matisse, éducateur sportif dans les écoles élémentaires. Je travaille principalement à l'école Joliot-Curie. Globalement, tout le monde a mis un certain temps à s'adapter aux différents changements de protocoles et de possibilités, puis nous avons trouvé notre rythme de croisière. Nous avons surtout investi l'athlétisme, qui nous permettait une pratique sportive sans contact et sans échange de matériel. Nous avons fait des cycles plus longs et cela nous a permis d'approfondir la connaissance de ces pratiques. Nous avons aussi développé des séances de sport collectif en individuel, comme les ateliers football, où chacun dribble avec son ballon. Il y a eu aussi du hockey. Avec la fermeture de la piscine, nous nous sommes retrouvés avec toutes les classes. Nous avons réussi à leur proposer 1 heure de sport par semaine. Très peu de séances ont été annulées. Alors certes, pendant le confinement, nous ne pouvions pas assurer de suivi, mais chaque fois que l'école était ouverte, le sport était au rendez-vous. Malgré les restrictions, la fermeture des gymnases et du moindre accès à la cour du fait de la multiplication des récréations, nous avons maintenu une offre sportive. Finalement, cela a été assez enrichissant car nous avons développé un bon partenariat avec les enseignants et avons amélioré nos propositions. C'est une période difficile pour tout le monde, mais chacun fait son maximum. Sébastien Fouquet, professeur de PS au collège Jules Vallès. Nous nous sommes d'abord adaptés au protocole en réduisant un certain nombre d'activités et sans supprimer de cours. Nous avons beaucoup de chance à Jules Vallès, car nous sommes à proximité de superbes infrastructures extérieures, le stade Jean-Bouin et le parc interdépartemental de la Plaine Nord. Cela nous a permis de proposer des activités variées. Nous avons développé les courses d'orientation grâce à un collègue du lycée professionnel Jean Massé qui a mis au point un système de balises fixes à l'aide de symboles. Cela nous a facilité le travail car l'installation de balises n'est pas toujours possible avant chaque séance. La crise sanitaire nous a permis de revoir notre façon d'enseigner en nous obligeant à réfléchir à d'autres manières de concevoir nos cours. Cela nous servira certainement pour la suite. Pendant la dernière période de confinement, nous avons mis en place un Padlet, un mur virtuel collaboratif sur lequel nous avons déposé une batterie d'exercices. Les élèves y ont trouvé ce qu'il fallait pour se maintenir en forme. Une collègue a aussi créé un escape game en ligne sur des connaissances en EPS abordées dans les activités pratiquées au collège. Delphine Marcellesi, professeure agrégée d'EPS au collège Henri Matisse. Pendant le premier confinement, nous avons immédiatement créé un espace d'échange avec les élèves et leurs familles. Nous nous sommes appuyés sur les carnets d'entraînement de l'Académie de Créteil pour mettre en place des fiches de renforcement musculaire avec plusieurs niveaux. Nous avons aussi mis à disposition de nos élèves des vidéos YouTube d'entraînement ou d'explication pour qu'ils fassent leurs exercices en toute sécurité. Il y a eu un grand travail de collaboration entre enseignants. Nous avons même mis en place un projet interdisciplinaire avec un professeur d'espagnol. Le but, reproduire une chorégraphie avec les gestes sanitaires sur une chanson en espagnol et faire un flash mob dans la cour en septembre. C'est un défi ludique qui a bien fonctionné, même si le contexte sanitaire ne nous a pas permis de le finaliser. À la rentrée, les cours de PS ont été organisés en demi-groupe, les séances étaient donc plus intenses, ce qui a permis une meilleure progression. Pour permettre la distanciation sociale, nous avons évidemment abandonné le basket ou le handball pour valoriser le badminton, l'athlétisme, la danse et la natation pour les sixièmes. En janvier, nous sommes passés en classe entière, puis à un système EPS tous dehors. À Henri Matisse, nous avons accès au parc Maurice Thorez, comme le collège Émile Zola et Saint-André. Nous avons dû nous coordonner pour nous répartir l'espace par demi-journée. Mais nous avons aussi été conduits à faire de nombreuses séances en classe. Documentaires, cours sur la nutrition, etc. Depuis un an, nous ne cessons de nous adapter au gré des décisions gouvernementales. Nicolas Lionel, professeur d'EPS au lycée professionnel Jacques Brel. Cette année a été compliquée. Pendant le confinement, nous avons proposé un programme d'entretien musculaire et un parcours de santé, notamment par le biais de vidéos diffusées sur Pronote ou sur WhatsApp. On pouvait leur donner des conseils en direct. Cela dit, beaucoup d'élèves ont décroché en EPS. En dehors des périodes de confinement, nous avons pratiqué principalement en extérieur. Jacques Brel a un accès prioritaire à des activités au parc interdépartemental. Cela nous a permis de faire du kayak, du tennis ou encore d'accéder au terrain synthétique. Face aux restrictions, nous avons modifié notre programme et notre pratique pour aller davantage vers la connaissance de soi que vers le sport pur. D'ailleurs, j'ai trouvé que cette période avait accru la confusion qu'il y avait entre sport et EPS. Nous travaillons la motricité et l'épanouissement des élèves par le biais de l'activité corporelle, alors que le sport, notamment en club, est plus axé sur la performance. L'EPS, ce n'est pas juste faire bouger les élèves, c'est travailler sur l'épanouissement, comme sur comment s'approprier son corps et s'accorder avec les autres pour monter des projets. Or, on nous dit il faut 30 minutes d'activité sportive par jour et cela suffit. Même le ministre a parlé de sport à l'école. Il faut une clarification du message.
Groupe politique du conseil municipal. Groupe UCA, majorité municipale, LR, UDI, Modem sans étiquette. Ensemble, restons unis.
En l'espace d'une année, notre pays a été frappé à plusieurs reprises par des attaques terroristes abjectes, visant directement ses valeurs fondamentales, la liberté d'expression, le droit à l'enseignement, à la santé, le respect de l'ordre public ou encore la liberté de culte. Tous ces attentats ont touché indistinctement des innocents. Fidèle d'une religion, journaliste, enseignant et le dernier en date, une fonctionnaire de la police nationale du commissariat de Rambouillet. Comme lors de l'assassinat du professeur Samuel Paty, notre groupe exprime à tous les agents de la police nationale son soutien et sa solidarité. Le sacrifice de cette mère de famille a bouleversé chacun d'entre nous et nous présentons nos sincères condoléances à ses proches. Nous condamnons fermement les actes de ces fanatiques dont les méthodes et les itinéraires personnels sont chaque fois très similaires, une faiblesse sociale et psychologique alimentée par les réseaux sociaux qui manipulent et canalisent une haine contre nos principes et notre mode de vie. Il faut se rendre à l'évidence, la liberté n'est pas une valeur souhaitée et partagée par tous. Il est rassurant et fondamental que ces actes aient été unanimement condamnés par toutes les composantes de la société civile, dont bien entendu les représentants des différentes religions. Cela démontre à la fois que les terroristes ne représentent qu'eux-mêmes, mais aussi la reconnaissance que la loi républicaine prime sur tout autre pour définir les lois qui régissent notre démocratie. La liberté pour chacun de croire et de pratiquer un culte, d'exprimer ses opinions, la liberté d'information, la liberté de choisir ses représentants dans les instances démocratiques, la liberté d'enseigner, d'apprendre, mais aussi d'éveiller les consciences, mais aussi la liberté de vivre en sécurité dans une société apaisée. L'état de droit doit pouvoir s'appuyer sur des forces de l'ordre disposant de moyens suffisants et adaptés pour garantir que nos enfants, de manière égale et sans discrimination, pourront grandir et s'épanouir dans une société ouverte et respectueuse de chaque citoyen, forte de tous les progrès sociaux acquis depuis des décennies. Cela demande l'adhésion individuelle de chacun d'entre nous. Ceux qui s'y opposent montrent qu'ils n'ont pas compris ce qu'était la France et mettent en danger la fraternité et la solidarité humaine.
Écologistes et citoyens, ils tiennent, par Mathias Fondeneige, adjoint au maire Vie associative et éducation à l'environnement, groupe des élus écologistes et citoyens, courriel citoyens et écologistes @yahoo.com. Ils soignent, ils réaniment, ils se battent, ils sont épuisés, ils n'ont pas assez de moyens, mais ils tiennent. Ils testent, ils analysent, ils vaccinent, ils gèrent pénuries, atermoiements et inquiétudes, mais ils tiennent. Ils nettoient, désinfectent, ouvrent les fenêtres, puis ils recommencent encore et encore, ils n'en ont jamais fini, mais ils tiennent. Ils rassurent, accompagnent, protègent, sont confinés avec leurs personnes âgées, doivent assumer dépité de dire non aux familles, mais ils tiennent. Ils livrent pizza, sushi, wrap, corbeilles de fruits. Ils sont les serveurs motorisés de nos salons restaurants déprimés, et ils tiennent. Ils suivent cours, révisions, travaux dirigés depuis leur chambre de cité universitaire. Ils ne sortent plus en soirée. Ils ont 20 ans, ils sont prisonniers, mais ils tiennent. Ils télétravaillent, se réunissent en visio, font l'école à la maison, leur salle à manger est devenue leur bureau, leur vie professionnelle a envahi leur intimité, mais ils tiennent. Ils répètent pour une première, pour un concert, qui n'a ni affiche ni billet de vente, mais ils tiennent. Ils ne servent plus, leurs comptoirs sont déserts et leurs couverts rangés, ils ne savent pas quand sera la prochaine tournée et le prochain service, mais ils tiennent. Ils ne guident plus, ne projettent plus, leurs toiles ne sont plus admirées, leurs fauteuils sont vides, ils ignorent quand se tiendra la prochaine visite ou la prochaine séance, mais ils tiennent. Leurs magasins sont fermés, leurs collections périmées, leurs commerces non essentiels, leurs loyers restent à honorer, mais ils tiennent. Ils sont ruinés, ils ont perdu le travail d'une vie, ils ne savent pas ce que sera leur lendemain, ils sont inquiets pour leur famille, ils pensent parfois à en finir, mais ils tiennent. Ils portent le masque, appliquent les gestes barrières, respectent les couvre-feux, remplissent leurs attestations, se font dépister, vacciner, se confinent, se soignent, se languissent de leurs proches, pleurent leurs disparus, sont à bout, n'en peuvent plus, mais ils tiennent. Ils sont les femmes et les hommes vivant en France, et ils sont celles et ceux qui permettent à la ville de continuer à fonctionner, agents de Choisy-le-Roi qui accueillent, renseignent, aident, accompagnent, qui s'inquiètent quand le collègue ne va pas bien, qui endossent la charge de travail de l'autre quand il est absent. Qu'ils soient ici salués et remerciés, ils sont nous, nous sommes eux, ils sont le peuple de la crise sanitaire au quotidien, qui tient, alors tenons bon Union
avec
de la
eux,
gauche communiste,
ensemble.
Socialiste, écologiste et citoyenne, pour un droit réel à l'éducation, pour le groupe UGCE Malika Benkala, courriel ugce94@gmail.com.
Apprendre à la maison est difficile, et pour des millions d'enfants sans accès à Internet, c'est encore plus difficile. Au moins un tiers des écoliers mondiaux, 463 millions d'enfants à l'échelle mondiale, n'ont pas pu accéder à l'apprentissage à distance lorsque la Covid-19 a fermé leurs écoles. Depuis mars 2020, l'enseignement de 94% des enfants, collégiens et lycéens, sans oublier les étudiants et jeunes adultes dans le monde, a été fortement impacté. Au niveau national, la continuité éducative annoncée via l'accompagnement numérique ou à distance n'a que très partiellement fonctionné. Outils inadaptés ou développés dans l'urgence, enseignements non formés, équipements insuffisants, serveurs défaillants, l'impossibilité récemment d'accéder à la plateforme du CNED en témoigne. Les plus défavorisés sont, comme toujours, les plus touchés. Un récent rapport de l'OCDE souligne que malgré l'effort de la France pour maintenir les écoles ouvertes, la distanciation sociale a encore plus aggravé les inégalités très fortes qui sont une caractéristique du système éducatif français. Les priorités pour l'analyste vont être à l'avenir d'assurer un soutien personnalisé aux élèves les plus défavorisés, notamment en s'aidant de l'outil numérique. Cela n'est pas dans la culture française. Un an après, les moyens mis à disposition pour réfléchir sur les enseignements à distance ne sont pas à la hauteur des enjeux de l'éducation et de la réussite des enfants. Toute la responsabilité pèse trop souvent sur le corps enseignant qui a dû pallier au manque avec des moyens dérisoires et une pression sociale forte. L'éducation nationale se devait d'investir d'urgence pour combler la fracture numérique, atteindre chaque enfant avec une éducation de qualité et surtout prioriser la réouverture en toute sécurité des écoles. En France, les 100 milliards du plan de relance vont aller au soutien des secteurs économiques qui vacillent avec la crise sanitaire. Et ce n'est pas l'enseignement la priorité, constate encore Angèle Guria, le directeur de l'OCDE. La crise sanitaire montre également à quel point la dimension relationnelle est au cœur de la réussite éducative et de la lutte contre les inégalités à l'école. Rien ne peut remplacer la relation pédagogique directe entre un enseignant et ses élèves. Les sociologues ont pu observer que ce sont les enfants les mieux entourés qui ont le moins souffert du confinement, car ils sont plus autonomes et plus à l'aise avec les codes de l'école. Cette crise confirme l'effort que le pays doit porter à la réduction des inégalités, même si cette question dépasse souvent le seul champ de l'école. Face à ce constat, au-delà du fait que l'instruction des enfants est une compétence d'État, il convient localement d'agir et de proposer des actions efficaces et concrètes pour aider les enfants qui ont décroché scolairement ou sont en grande difficulté depuis la crise. C'est notre responsabilité à tous. S'il existe des initiatives associatives à Choisy le Roi qui proposent de soutenir les enfants dans leur scolarité, des structures municipales de soutien pour ceux et celles qui n'ont pas eu la possibilité de prendre part à un apprentissage en ligne doivent être mises en place à Choisy le Roi et ainsi faire face à l'augmentation probable des taux d'abandon scolaire. Cela doit être une priorité pour la ville et c'est d'ailleurs inscrit dans le projet éducatif local depuis 2019. Il faut investir pour réinventer et collaborer avec les enseignants et d'autres partenaires pour ensuite envisager un nouveau programme d'aide périscolaire pour les enfants de Choisy à travers des modalités ludiques d'apprentissage. Nous vous remercions de votre attention et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro de Choisy Info.